journal, Sébastien Legény, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un nouvel accord sur le nucléaire iranien va-t-il voir le jour après la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington? Difficile d'interpréter la journée d'hier, partagée entre grands sourires et déclarations ambiguës. On y revient dans un instant. Matignon reprend la main dans le conflit de la SNCF. Édouard Philippe accepte finalement de rencontrer les syndicats. Dans ce journal, une autre façon de faire grève, une marche de cheminots à travers toute la France. La grève à la SNCF, on en reparle à 8h20. Nicolas, vous recevez le patron des patrons.
Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, invité du grand entretien de la matinale au micro d'Inter jusqu'à 8h40. Appelez-nous dès maintenant, le standard est ouvert évidemment au 01 45 24 7000.
Au menu également, un émouvant hommage des Australiens à leurs soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. On commémore cette année les 100 ans de la bataille de Villers-Bretonneux. La police municipale de Wissous désarmée sur décision de la préfecture de l'Essonne. Les Allemands qui retrouvent leur lingot d'or après des décennies, un trésor éparpillé aux quatre coins du monde. Et puis pour finir, du cinéma avec un film qui malmène les mythes fondateurs d'Israël. Après la parade nuptiale, vont-ils enfin passer aux actes? Autrement dit, l'amitié affichée entre Emmanuel Macron et Donald Trump va-t-elle déboucher sur des décisions politiques majeures? Hier, les deux présidents français et américains ont encore multiplié les démonstrations d'amabilité au deuxième jour de cette visite d'État. Accolades, poignées de main et même petites bises, on s'auto-congratule à n'en plus finir.
Jamais nous n'avions jusqu'ici pris une position commune sur la résolution dans la durée de la crise syrienne. Jamais nous n'avions ensemble pris une position pour dire nous allons aller vers un nouvel accord sur l'Iran. Nous venons de le faire aujourd'hui. Donc, vous avez eu la preuve de ce que l'amitié entre nos pays et la relation que nous entretenons permet d'obtenir de manière très concrète.
Je pense pour ma part que nous avons en fait beaucoup de choses en commun, je puis le dire. Nous sommes tombés d'accord, nous pouvons changer, nous pouvons être souples. Dans la vie, il faut faire preuve de souplesse. Je dois dire que la France est un très grand pays. Vous êtes un président extraordinaire, un de vos très grands présidents, et je suis très honoré de pouvoir vous appeler mon ami. Je vous remercie.
Voilà pour les compliments en public donc, mais sur le fond, on est encore loin d'un accord entre les deux pays autour du dossier le plus épineux, le dossier du nucléaire iranien. Le chef de l'État français, on l'a entendu, veut croire qu'il y a une véritable avancée avec la possibilité de discuter d'un nouvel accord plus global. Le président américain, lui, reste très évasif. Alors au final, Christian Chéneau, les contours et la portée d'un possible nouvel accord sont encore flous.
Sans surprise, Donald Trump a martelé qu'il voulait un nouveau texte aux fondations solides. Son homologue français a lui redit qu'il ne fallait pas déchirer l'accord nucléaire de 2015, mais le compléter. Pour François Nicolau, ancien ambassadeur de France à Téhéran, Emmanuel Macron a tenté de vendre à Trump l'idée d'un triple empilement de contraintes pour l'Iran afin que les États-Unis restent dans l'accord de Vienne.
Il veut d'abord obtenir un prolongement des engagements nucléaires de l'Iran beaucoup plus longtemps dans le temps, ça c'est le premier étage qui bâtit sur les fondations. Le deuxième étage, c'est le contrôle du programme balistique de l'Iran. Et le troisième étage, c'est l'encadrement du rôle de l'Iran dans la région qui est considéré comme un peu agressif.
Sauf que l'Iran ne veut négocier ni son programme balistique, ni son influence régionale, assure ardemment Amir Aslani, avocat spécialiste des affaires iraniennes.
Les Iraniens n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils acceptent davantage de sanctions, qu'ils renégocient l'accord, alors que d'après même l'AIEA, l'Iran a respecté à la lettre la totalité des engagements de l'accord nucléaire.
En tout cas, Emmanuel Macron espère, lui, avoir convaincu Donald Trump qui annoncera le 12 mai prochain sa décision de rester ou pas dans l'accord nucléaire de 2015.
Christian Chéneau du service étranger de France Inter. Aujourd'hui, troisième et dernier jour de visite avec au programme un discours du président français devant le Congrès et une rencontre entre Emmanuel Macron et des étudiants américains. On revient en France avec le gouvernement qui fait donc un pas en direction des syndicats de la SNCF. Les syndicats qui veulent même y voir un recul et un désaveu de la ministre des Transports. Le Premier ministre a accepté hier de les recevoir le 7 mai prochain pour des réunions bilatérales. En attendant, pas de changement de stratégie. La grève perlée continue sans s'étendre à ce stade aux vacances d'été. Une grève pas toujours bien comprise dans l'opinion publique. Alors pour s'expliquer, pour se raconter, trois cheminots ont décidé de prendre la route à pied depuis l'Ariège en direction de l'Elysée. Ils étaient de passage hier en Haute-Vienne. Le reportage de Justine Dinchet.
Et voilà, 24 nouveaux kilomètres avalés par ses trois amis, pas sportifs du tout.
On a acheté des chaussures deux jours avant de partir.
Sébastien est membre de ce trio de cheminots en marche.
Les marcheurs, les vrais marcheurs.
Ils n'appartiennent à aucune organisation syndicale ou politique.
Comme ça, ça permet aux jeunes, ils ont plus de facilité à venir parler et ça permet d'avoir de bonnes discussions.
Sur leur route, ils ont croisé Jean-Pierre, un cheminot limougeau.
Alors la marche, elle permet de sortir du cliché classique où on distribue des tracts que les gens ne lisent plus beaucoup. Là, c'est de l'humain à l'état pur, ça. Il n'y a pas de triche. Donc on en prend plein la poire, on en prend plein le cœur et plein les tripes. Et ça, c'est important pour remonter le moral des gens.
Régis s'enrichit depuis 15 jours, c'est ce qu'il dit. Il persuade aussi.
On a rencontré des personnes qui étaient réticentes, qui étaient contre, bien sûr, cette forme de mouvement de bloquer des trains. Dans la, on va dire, 80% des cas, quand on commence à expliquer la casse du lien social, la casse du service public, c'est une prise de conscience.
Tous les soirs, les trois amis dorment chez l'habitant.
Voilà, pas forcément des cheminots. On a eu intermittent du spectacle, chef d'entreprise, médecin.
À Limoges, ils ont été hébergés chez Christelle, ni cheminots, ni syndiqués.
Plutôt que d'avoir une manifestation ponctuelle, je trouvais que c'était une belle action qui permettait de fédérer, donc je trouvais ça pas mal.
Les trois marcheurs arriveront le 8 mai à Paris, où ils espèrent rencontrer Emmanuel Macron. Limoges, Justine Dinchet, France Inter.
Une cérémonie poignante ce matin, en hommage aux soldats australiens tombés pendant la Première Guerre mondiale. Au total, 60 000 Australiens sont morts au combat entre 1914 et 1918, notamment ce 25 avril 1918, lors de la bataille de Villers-Bretonneux dans la Somme, près d'Amiens. Il y a 100 ans exactement, l'armée australienne mettait en déroute les Allemands. Et depuis, chaque 25 avril, Australiens et Néo-Zélandais honorent leurs soldats. On appelle cela l'Anzac Day. La cérémonie de ce centenaire a eu lieu ce matin, à l'aube, devant 8000 personnes. François Sauvestre de France Bleu Picardie a assisté.
Beaucoup sont arrivés dès minuit, dans la nuit noire, au son des premières chorales. Dans la foule, une majorité d'Australiens, comme Philippe, c'est la première fois qu'il se déplace pour l'Anzac Day de Villers-Bretonneux. Je suis venu ici pour m'agenouiller sur la tombe de mon grand cousin. Il est mort ici il y a 100 ans. Il avait 21 ans. Je ne viens pas que pour lui, mais pour tous ceux qui se sont battus. Nous leur devons tout notre respect, toute notre gratitude pour ce qu'ils ont fait, pour ce par quoi ils sont passés. Beaucoup sont là pour saluer la mémoire de leurs aïeux tombés ici il y a tout juste 100 ans, au matin du 25 avril 1918. Anna, elle, tient à perpétuer le souvenir de ce sacrifice. Je suis ici pour qu'on se souvienne. Parce que pour l'instant, on se souvient. Mais est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants le feront? Moi, je le sais, je veux faire passer le message. Je me sens comme connecté à l'histoire de ces soldats. Tour à tour, la foule a écouté avec émotion les discours d'hommage à ces soldats pendant le Dawn Service, l'office de l'aube. Et Jenny est elle aussi venue d'Australie. Le Dawn Service, c'est le symbole de la lumière du soleil qui se lève et qui fait qu'il y a toujours de la vie, même avec tous ces morts autour. Beaucoup de tombes n'ont aucun nom, mais ce matin, elles ont droit à la lumière, elles ont droit à la vie. Les anonymes, les officiels, tous d'une même voix ont salué la mémoire de ces soldats. 11 000 reposent ici au mémorial de Villers-Bretonneux.
François Sauvestre de France Bleu Picardie. Vincent Bolloré, toujours en garde à vue à Nanterre. On ne sait pas si l'homme d'affaires breton a passé la nuit dans les locaux de la police judiciaire ou s'il a bénéficié d'un régime de faveur, comme Nicolas Sarkozy il y a quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est que sa garde à vue pour soupçon de corruption en effet se poursuit. Les policiers cherchent à savoir si les concessions portuaires au Togo et en Guinée ont été obtenues légalement ou pas. Au cœur de cette enquête, il y a un empire tentaculaire, l'empire Bolloré, à cheval sur la communication et l'industrie, un mélange des genres qui pose question. C'est l'avis du journaliste Jean-Pierre Canet, auteur du livre Vincent Tout-Puissant.
La nature même de cette affaire, c'est l'utilisation d'un côté d'une agence, Havas, pour faire la campagne et la communication de deux présidents africains, l'un qui se représentait et l'autre qui briguait le pouvoir en Guinée. Et de l'autre côté, une autre entité de Bolloré, Bolloré Logistics, qui gère les ports en Afrique. Est-ce qu'on peut mettre dans un seul et même ensemble autant de sociétés qui ont parfois des intérêts totalement contradictoires? L'agence Havas qui fait de la communication, y compris politique, une activité industrielle très lucrative et très importante pour Vincent Bolloré en Afrique, plus aujourd'hui Canal+ et des médias. Est-ce que tout ça est compatible? Est-ce que ce genre de groupe ne tient pas en lui naturellement des conflits d'intérêts? En fait, on a laissé grandir des empires qui sont à la fois des empires financiers, industriels, qui ont des intérêts. Là, vraiment, Bolloré, c'est un cas d'école totalement contradictoire. De fait, par nature, entre une activité de médias, où vous avez du journalisme éventuellement, et de l'autre côté, des activités qui, par essence, lorsqu'elles sont traitées par une rédaction au sein de Canal+, entrent en contradiction avec ses autres intérêts industriels. C'est un pouvoir qui devrait être régulé. reculer, en fait.
Et Jean-Pierre Canet, l'invité ce matin d'Hélène Roussel dans le 5-7 de France Inter. Une autre garde à vue, celle hier de Jawad Ben Daoud, le logeur de deux des djihadistes du 13 novembre 2015. Relaxé en février par la justice dans cette affaire, il vient d'être à nouveau interpellé, cette fois-ci pour des menaces de mort sur sa compagne. Jawad Ben Daoud doit être mis en examen aujourd'hui. La petite commune de Wissous, sous surveillance de l'État, la police municipale de cette ville de l'Essonne n'a désormais plus le droit d'être armée. Décision de la préfecture suite à une affaire rocambolesque. Souvenez-vous, il y a plus de 15 jours, le maire de Wissous débarquait dans un camp de gens du voyage, armé d'un sabre japonais et accompagné de ses policiers. Valentin Dunat.
Si au départ cette affaire faisait sourire les habitants, désormais elle pose question.
Oui, voilà, je pense que c'est ça. Ça fait sourire parce que bon, imaginez le maire avec un sabre dans la main, ça fait rire au début. Après, c'est vrai que bon, bah, prenons ça au sérieux, bon, bah, on se pose des questions.
Notamment sur le rôle des policiers municipaux, sur leur implication ce jour-là.
Quand je voyais sur la vidéo les municipaux qui étaient derrière le maire, limite ils l'empêchaient pas de faire ce qu'il était en train de faire. Sur la vidéo, on le voit, c'est limite les policiers municipaux, ils soutiennent le maire en fait. Alors qu'ils n'ont aucun droit de faire ça. Ils n'ont aucun droit.
Les 9 policiers municipaux ont donc 3 semaines pour déposer leurs armes au commissariat de Massy, un arsenal que nous décrit Hélène Mercher, conseillère municipale d'opposition.
Alors, il y avait 8 revolvers de calibre 38 spécial, 8 pistolets 9 mm Luger, ainsi que 2 lanceurs de balles de défense qu'on appelle les flashballs, 8 tonfa et 8 matraques télescopiques et 7 aérosols de gaz incapacitants. Mais c'est énorme, quoi. Pour une police municipale, c'est énorme. Ce sont de véritables robocops.
En revanche, pour le syndicat de défense des policiers municipaux, cette décision est scandaleuse et ubuesque. Les policiers municipaux de Wissous pourraient donc exercer leur droit de retrait.
Valentin Dunat de France Bleu, Paris. En bref, à l'étranger, on en connaît plus sur le mobile supposé de l'attaque à la camionnette dans les rues de Toronto. Alec Minassian, son auteur, faisait partie d'un groupe appelé les célibataires involontaires, accusant les femmes de leur célibat et appelant parfois même au viol. Une majorité de femmes se trouve parmi les 24 victimes, 10 morts et 14 blessés. La justice britannique qui s'oppose au Vatican. Nous vous parlions de cette tragique histoire hier dans ce même journal, l'histoire de ce bébé britannique de 23 mois, Alfie, hospitalisé à Londres en état semi-végétatif. La justice anglaise veut arrêter les soins, mais pas les parents, qui ont obtenu dans leur combat le soutien de l'Italie et du pape, Rome qui proposait d'offrir la nationalité italienne au petit Alfie. Eh bien, un juge britannique a refusé hier d'autoriser les parents à se rendre à l'étranger. La liberté de la presse dans le monde, qui s'est encore dégradée l'an dernier, 21 pays placés en situation très grave, selon le dernier rapport de Reporters sans frontières. On y revient avec la chronique de Sonia de Villers dans un peu plus d'une demi-heure. Le rapport de RSF à retrouver aussi sur notre site franceinter.fr. Et maintenant, cette histoire de lingots d'or allemand qui passionne nos voisins depuis des décennies. L'Allemagne, le saviez-vous, possède la deuxième plus grande réserve d'or après les États-Unis. Mais ce magot avait été mis à l'abri, il avait quitté les caisses de l'État après la Deuxième Guerre, si bien que les Allemands ont cru pendant des années avoir perdu leur lingot d'or. Alors pour rassurer tout le monde, la Banque centrale de Francfort a décidé d'exposer ses richesses à la vue de tous. La correspondance de Cyril Sauvageau.
8 lingots de 12 kilos présentés dans une vitrine. L'exposition au musée de la monnaie de Francfort n'a rien de très spectaculaire. Mais la démarche se veut symbolique. Pour la Bundesbank, il s'agit de montrer au public que les réserves d'or de l'Allemagne sont bel et bien là, de retour au bercail après leur rapatriement ces dernières années de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis. À l'époque de la guerre froide, c'est la crainte d'une invasion soviétique qui a poussé la RFA à stocker l'essentiel de son or chez ses alliés de l'Ouest. Mais après la réunification, des voix se sont élevées en Allemagne pour réclamer le retour du trésor au nom de la souveraineté nationale. Un député eurosceptique a fait beaucoup parler en 2013 avec une campagne baptisée « Ramener notre argent à la maison ». Et certains sont allés jusqu'à prétendre que les lingots étaient une légende. L'exposition entend dépassionner le débat et faire œuvre de pédagogie, tout en rappelant que la moitié de l'or allemand est toujours stockée à l'étranger, 1200 tonnes à New York et 400 à Londres, on n'est jamais trop prudent. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Et on termine, Sébastien, avec les sorties cinéma du mercredi et le dernier film de l'Israélien Samuel Maoz.
C'est lui qui avait signé Lebanon, Lion d'or à Venise en 2009. Il revient avec un nouveau film très métaphorique sur la société israélienne, Foxtrot, du nom d'une danse de salon où les danseurs reviennent toujours à leur point de départ. Eva Bétan.
C'est une image de cinéma que l'on connaît, liée à la guerre. Des militaires, toujours par deux, viennent annoncer à des parents la mort de leur fils. Ici, les gradés prennent les choses en main, comme si le soldat tué appartenait à la nation plus qu'à sa famille. Il y aura un coup de théâtre, et non des moindres, dans ce film en trois parties qui nous mènera à un checkpoint, la plupart du temps désert, où de très jeunes soldats doivent néanmoins décider en une fraction de seconde, devant un danger réel ou supposé, s'ils doivent tirer ou pas. Ce sont les ressorts profonds de la société israélienne qui intéressent Samuel Maoz.
Nous sommes une société traumatique. Le souvenir émotionnel des traumatismes passés, le plus important étant l'Holocauste suivi par les guerres de survie, est aujourd'hui encore plus fort que toute réalité. Ce sentiment d'un danger permanent qui menace notre existence même a pour résultat une guerre sans fin. Or, une nation technologique qui possède l'arme nucléaire ne court plus de risques existentiels.
La très conservatrice ministre de la Culture israélienne a fait campagne contre le film, oubliant que l'esprit critique est la marque du cinéma israélien. Samuel Maoz, avec ce film allégorique puissant qui joue sur l'absurde, s'inscrit dans la lignée des grands films qui questionnent.
Foxtrot du cinéaste israélien Samuel Maoz, ça sort aujourd'hui, un film remarqué par Eva Bétan, le service culturel de France Inter.
Merci Sébastien Legénie.